Troisième partie, chapitre 4. L'autre raison de l'amabilité que me montra la princesse de Parme était plus particulière. C'est qu'elle était persuadée d'avance que tout ce qu'elle voyait chez la duchesse de Guermantes, choses et gens, était d'une qualité supérieure à tout ce qu'elle avait chez elle. Chez toutes les autres personnes, elle agissait, il est vrai, comme s'il en avait été ainsi. Pour le plat le plus simple, pour les fleurs les plus ordinaires, elle ne se contentait pas de s'extasier, elle demandait la permission d'envoyer dès le lendemain chercher la recette ou regarder l'espèce par son cuisinier ou son jardinier en chef. Personnages à gros appointements, ayant leur voiture à eux et surtout leurs prétentions professionnelles, et qui se trouvaient fort humiliés de venir s'informer d'un plat dédaigné ou prendre modèle sur une variété d'œillets, laquelle n'était pas moitié aussi belle, aussi panachée de chinage, aussi grande, quant aux dimensions des fleurs, que celle qu'ils avaient obtenue depuis longtemps chez la princesse. Mais si, de la part de celle-ci, chez tout le monde, cet étonnement devant les moindres choses était factice et destiné à montrer qu'elle ne tirait pas de la supériorité de son rang et de ses richesses un orgueil défendu par ses anciens précepteurs, dissimulé par sa mère et insupportable à Dieu. En revanche, c'est en toute sincérité qu'elle regardait le salon de la duchesse de Guermantes comme un lieu privilégié où elle ne pouvait marcher que de surprises en délices. D'une façon générale, d'ailleurs, mais qui serait bien insuffisante à expliquer cet état d'esprit, les Guermantes étaient assez différents du reste de la société aristocratique. Ils étaient plus précieux et plus rares. Ils m'avaient donné, au premier aspect, l'impression contraire. Je les avais trouvés vulgaires, pareils à tous les hommes et à toutes les femmes, mais parce que préalablement j'avais vu en eux, comme en Balbec, en Florence, en Parme, des noms. Évidemment, dans ce salon, toutes les femmes que j'avais imaginées comme des statuettes de Saxe ressemblaient tout de même davantage à la grande majorité des femmes. Mais, de même que Balbec ou Florence, les Guermantes, après avoir déçu l'imagination parce qu'ils ressemblaient plus à leur pareil qu'à leur nom, pouvaient ensuite, quoique à un moindre degré, offrir à l'intelligence certaines particularités qui les distinguaient. Leur physique même, la couleur d'un rose spécial allant quelquefois jusqu'au violet, de leur chair, une certaine blondeur, quasi éclairante des cheveux délicats, même chez les hommes, massés en touffes dorées et douces, moitié de lichen pariétaire et de pelage félin, éclat lumineux, à quoi correspondait un certain brillant de l'intelligence, car si l'on disait le teint et les cheveux des Guermantes, on disait aussi l'esprit des Guermantes, comme l'esprit des Mortemar, une certaine qualité sociale plus fine dès avant Louis XIV, et d'autant plus reconnue de tous qu'ils la promulguaient eux-mêmes. Tout cela faisait que, dans la matière même, si précieuse fût-elle, de la société aristocratique, où on les trouvait engainés, ça et là, les Guermantes restaient reconnaissables, faciles à discerner et à suivre, comme les filons dont la blondeur vaine, le jaspe et l'onyx, ou plutôt encore comme le souple ondoiement de cette chevelure de clarté, dont les crins dépeignés courent comme de flexibles rayons dans les flancs de l'agate mousse. Les Guermantes, du moins ceux qui étaient dignes du nom, n'étaient pas seulement d'une qualité de chair, de cheveux, de transparents regards, exquises, mais avaient une manière de se tenir, de marcher, de saluer, de regarder avant de serrer la main, par quoi ils étaient aussi différents en tout cela d'un homme du monde quelconque que celui-ci d'un fermier en blouse. et malgré leur amabilité, on se disait « N'ont-ils pas vraiment le droit, quoiqu'ils le dissimulent, quand ils nous voient marcher, saluer, sortir, toutes ces choses qui, accomplies par eux, devenaient aussi gracieuses que le vol de l'hirondelle ou l'inclinaison de la rose, de penser « Ils sont d'une autre race que nous, et nous sommes, nous, les princes de la terre ?» Plus tard, je compris que les Guermantes me croyaient en effet d'une race autre, mais qui excitait leur envie, parce que je possédais des mérites que j'ignorais et qu'ils faisaient profession de tenir pour seuls importants. Plus tard encore, j'ai senti que cette profession de foi n'était qu'à demi sincère et que chez eux, le dédain ou l'étonnement coexistaient avec l'admiration et l'envie. La flexibilité physique essentielle aux Guermantes était double. Grâce à l'une, toujours en action, à tout moment, et si par exemple un Guermante mâle allait saluer une dame, il obtenait une silhouette de lui-même, faite de l'équilibre instable, des mouvements asymétriques et nerveusement compensés. Une jambe traînant un peu, soit exprès, soit parce qu'ayant été souvent cassée à la chasse, elle imprimait au torse, pour rattraper l'autre jambe, une déviation à laquelle la remontée d'une épaule faisait contrepoids, pendant que le monocle s'installait dans l'œil, haussait un sourcil au même moment où le toupet des cheveux s'abaissait pour le salut. L'autre flexibilité, comme la forme de la vague, du vent ou du sillage que garde à jamais la coquille ou le bateau, c'était pour ainsi dire stylisé en une sorte de mobilité fixée, incurvant le nez busqué qui, sous les yeux bleus à fleur de tête, au-dessus des lèvres trop minces, d'où sortait chez les femmes une voix rauque, rappelait l'origine fabuleuse enseignée au XVIe siècle par le bon vouloir de généalogistes parasites et hellénisants à cette race, ancienne sans doute, mais pas au point qu'ils prétendaient, quand il lui donnait pour origine la fondation mythologique d'une nymphe par un divin oiseau. Les Guermantes n'étaient pas moins spéciaux au point de vue intellectuel qu'au point de vue physique. Sauf le prince Gilbert, l'époux aux idées surannées de Marie Gilbert et qui faisait asseoir sa femme à gauche quand il se promenait en voiture parce qu'elle était de moins bon sang, pourtant royale, que lui. Mais il était une exception et faisait, absent, l'objet des railleries de la famille et d'anecdotes toujours nouvelles. Les Guermantes, tout en vivant dans le pur gratin de l'aristocratie, affectaient de ne faire aucun cas de la noblesse. Les théories de la duchesse de Guermantes, laquelle, à vrai dire, à force d'être Guermante, devenait dans une certaine mesure quelque chose d'autre et de plus agréable, mettait tellement au-dessus de tout l'intelligence et était en politique si socialiste qu'on se demandait où, dans son hôtel, se cachait le génie chargé d'assurer le maintien de la vie aristocratique et qui, toujours visible, mais évidemment tapis tantôt dans l'antichambre, tantôt dans le salon, tantôt dans le cabinet de toilette, rappelait aux domestiques de cette femme qui ne croyait pas au titre de lui dire « Madame la Duchesse » à cette personne qui n'aimait que la lecture et n'avait point de respect humain, d'aller dîner chez sa belle-sœur quand sonnait 8 heures et de se décolleter pour cela. Le même génie de la famille présentait à Madame de Guermantes la situation des duchesses, du moins des premières d'entre elles, et comme elles multimillionnaires, le sacrifice à d'ennuyeux thés dîners en ville. Raoult, d'heure où elle eût pu lire des choses intéressantes, comme des nécessités désagréables analogues à la pluie, et que Madame de Guermantes acceptait en exerçant sur elle sa verve frondeuse, mais sans aller jusqu'à rechercher les raisons de son acceptation. Ce curieux effet du hasard, que le maître d'hôtel de Madame de Guermantes dit toujours « Madame la Duchesse », à cette femme qui ne croyait qu'à l'intelligence, ne paraissait pourtant pas la choquer. Jamais elle n'avait pensé à le prier de lui dire « Madame », tout simplement. En poussant la bonne volonté jusqu'à ses extrêmes limites, on eût pu croire que, distraite, elle entendait seulement « Madame » et que l'appendice verbal qui y était ajouté n'était pas perçu. Seulement, si elle faisait la sourde, elle n'était pas muette. Or, chaque fois qu'elle avait une commission à donner à son mari, elle disait au maître d'hôtel « Vous rappellerez à monsieur le duc ?» Le génie de la famille avait d'ailleurs d'autres occupations. Par exemple, de faire parler de morale. Certes, il y avait des guermantes plus particulièrement intelligents, des guermantes plus particulièrement moraux, et ce n'étaient pas d'habitude les mêmes. Mais les premiers, même un guermante qui avait fait des faux et trichait au jeu, et était le plus délicieux de tous, ouvert à toutes les idées neuves et justes, traitait encore mieux de la morale que les seconds, et de la même façon que Madame de Villeparisis, dans les moments où le génie de la famille s'exprimait par la bouche de la vieille dame. Dans des moments identiques, on voyait tout d'un coup les guermantes prendre un ton presque aussi vieillot, aussi bonhomme, et à cause de leur charme plus grand, plus attendrissant que celui de la marquise, pour dire d'une domestique « On sent qu'elle a un bon fond, c'est une fille qui n'est pas commune, elle doit être la fille de gens de bien, elle est certainement restée toujours dans le droit chemin. » À ces moments-là, le génie de la famille se faisait intonation. Mais parfois il était aussi tournure, air de visage, le même chez la duchesse que chez son grand-père, le maréchal, une sorte d'insaisissable convulsion, pareille à celle du serpent, génie carthaginois de la famille Barca. Et par quoi j'avais été plusieurs fois saisie d'un battement de cœur dans mes promenades matinales, quand, avant d'avoir reconnu Madame de Guermantes, je me sentais regardée par elle du fond d'une petite crèmerie. Ce génie était intervenu dans une circonstance qui avait été loin d'être indifférente, non seulement aux Guermantes, mais aux courvoisiers, partie adverse de la famille et, quoique d'aussi bon sang que les Guermantes, tout l'opposé d'eux. C'est même par sa grand-mère Courvoisier que les Guermantes expliquaient le parti pris du prince de Guermantes de toujours parler naissance et noblesse, comme si c'était la seule chose qui importât. Non seulement les Courvoisiers n'assignaient pas à l'intelligence le même rang que les Guermantes, mais ils ne possédaient pas d'elle la même idée. Pour un Guermante, fût-il bête, être intelligent, c'était avoir la dent dure, être capable de dire des méchancetés, d'emporter le morceau. C'était aussi pouvoir vous tenir tête, aussi bien sur la peinture, sur la musique, sur l'architecture, parler anglais. Les Courvoisiers se faisaient de l'intelligence une idée moins favorable. Et, pour peu qu'on ne fût pas de leur monde, être intelligent n'était pas loin de signifier avoir probablement assassiné père et mère. Pour eux, l'intelligence était l'espèce de pince monseigneur, grâce à laquelle des gens qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam forçaient les portes des salons les plus respectés. Et on savait, chez les Courvoisiers, qu'ils finissaient toujours par vous en cuire d'avoir reçu de telles espèces. Aux insignifiantes assertions des gens intelligents qui n'étaient pas du monde, les Courvoisiers opposaient une méfiance systématique. Quelqu'un ayant dit une fois « Mais Swann est plus jeune que Palamède. » Du moins, il vous le dit, et s'il vous le dit, soyez sûr que c'est qu'il y trouve son intérêt, avait répondu Madame de Galardon. Bien plus, comme on disait de deux étrangères très élégantes que les Guermantes recevaient, qu'on avait fait passer d'abord celle-ci, puisqu'elle était l'aînée. « Mais est-elle même l'aînée ?» avait demandé Madame de Galardon, non pas positivement, comme si ce genre de personne n'avait pas d'âge, mais comme si, vraisemblablement dénuée d'état civil et religieux, de traditions certaines, elles fussent plus ou moins jeunes comme les petites chattes d'une même corbeille entre lesquelles un vétérinaire seul pourrait se reconnaître. Les Courvoisiers, mieux que les guermantes, maintenait d'ailleurs en un sens l'intégrité de la noblesse, à la fois grâce à l'étroitesse de leur esprit et à la méchanceté de leur cœur. De même que les guermantes, pour qui, au-dessous des familles royales et de quelques autres comme les Deligne, les La Trémoille, etc., tout le reste se confondait dans un vague fretin. Était insolent avec des gens de race ancienne qui habitaient autour de Guermantes, précisément parce qu'ils ne faisaient pas attention à ces mérites de second ordre, dont s'occupaient énormément les courvoisiers. Le manque de ces mérites leur importait peu. Certaines femmes, qui n'avaient pas un rang très élevé dans leur province, mais brillamment mariées, riches, jolies, aimées des duchesses, étaient pour Paris, où l'on est peu au courant des pères et mères, un excellent et élégant article d'importation. Il pouvait arriver, quoique rarement, que de telles femmes fussent, par le canal de la princesse de Parme, ou en vertu de leur agrément propre, reçues chez certaines guermantes. Mais à leur égard, l'indignation des courvoisiers ne désarmait jamais. Rencontrer entre 5 et 6, chez leurs cousines, des gens avec les parents de qui leurs parents n'aimaient pas à frayer dans le perche, devenait pour eux un motif de rage croissante et un thème d'inépuisable déclamation. Dès le moment, par exemple, où la charmante comtesse G entrait chez les Guermantes, le visage de madame de Villebon prenait exactement l'expression qu'il eût dû prendre si elle avait eu à réciter le vers « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. » Vers qui lui était du reste inconnu. Cette courvoisier avait avalé presque tous les lundis un éclair chargé de crème à quelques pas de la comtesse G, mais sans résultat. Et madame de Villebon confessait en cachette qu'elle ne pouvait concevoir comment sa cousine Guermantes recevait une femme qui n'était même pas de la deuxième société à Châteaudun. « Ce n'est vraiment pas la peine que ma cousine soit si difficile sur ses relations, c'est à se moquer du monde !» concluait madame de Villebon avec une autre expression de visage, celle-là souriante et narquoise dans le désespoir. Sur laquelle un petit jeu de devinettes eût plutôt mis un autre vers que la comtesse ne connaissait naturellement pas davantage. « Grâce au Dieu, mon malheur passe mon espérance. » Au reste, anticipons sur les événements en disant que la persévérance, rime d'espérance dans le vers suivant, de madame de Villebon à snober madame G, ne fut pas tout à fait inutile. Aux yeux de madame G, elle doua madame de Villebon d'un prestige tel, d'ailleurs purement imaginaire, que, quand la fille de madame G, qui était la plus jolie et la plus riche des bals de l'époque, fut à marier, on s'étonna de lui voir refuser tous les ducs. C'est que sa mère, se souvenant des avanies hebdomadaires qu'elle avait essuyées rue de Grenelle en souvenir de Châteaudun, ne souhaitait véritablement qu'un mari pour sa fille, un fils Villebon. Un seul point sur lequel Guermantes et Courvoisier se rencontraient était dans l'art, infiniment varié d'ailleurs, de marquer les distances. Les manières des Guermantes n'étaient pas entièrement uniformes chez tous. Mais, par exemple, tous les Guermantes, de ceux qu'il était vraiment, quand on vous présentait à eux, procédait à une sorte de cérémonie, à peu près comme si le fait qu'ils vous eussent tendu la main eût été aussi considérable que s'il s'était agi de vous sacrer chevalier. Au moment où un Guermantes n'eût-il que 20 ans, mais marchant déjà sur les traces de ses aînés, entendait votre nom prononcé par le présentateur, il laissait tomber sur vous, comme s'il n'était nullement décidé à vous dire bonjour, un regard généralement bleu, toujours de la froideur d'un acier qu'il semblait prêt à vous plonger dans les plus profonds replis du cœur. C'est du reste ce que les Guermantes croyaient faire en effet, se jugeant tous des psychologues de premier ordre. Ils pensaient de plus accroître par cette inspection l'amabilité du salut qui allait suivre et qui ne vous serait délivré qu'à bon escient. Tout ceci se passait à une distance de vous qui, petite s'il se fût agi d'une passe d'armes, semblait énorme pour une poignée de main, et glaçait dans le deuxième cas comme elle eût fait dans le premier, de sorte que, quand le guermante, après une rapide tournée accomplie dans les dernières cachettes de votre âme et de votre honorabilité, vous avez jugé digne de vous rencontrer désormais avec lui, sa main, dirigée vers vous au bout d'un bras tendu dans toute sa longueur, avait l'air de vous présenter un fleuret pour un combat singulier. Et cette main était en somme placée si loin du guermante à ce moment-là que, quand il inclinait alors la tête, il était difficile de distinguer si c'était vous ou sa propre main qu'il saluait. Certains guermantes, n'ayant pas le sentiment de la mesure, ou incapables de ne pas se répéter sans cesse, exagéraient en recommençant cette cérémonie chaque fois qu'ils vous rencontraient. Étant donné qu'ils n'avaient plus à procéder à l'enquête psychologique préalable pour laquelle le génie de la famille leur avait délégué ses pouvoirs, dont ils devaient se rappeler les résultats, l'assistance du regard perforateur précédant la poignée de main ne pouvait s'expliquer que par l'automatisme qu'avait acquis leur regard ou par quelque don de fascination qu'ils pensaient posséder. Les courvoisiers, dont le physique était différent, avaient vainement essayé de s'assimiler ce salut scrutateur et s'étaient rabattus sur la raideur hautaine ou la négligence rapide. En revanche, c'était aux courvoisiers que certaines très rares guermantes du sexe féminin semblaient avoir emprunté le salut des dames. En effet, au moment où on vous présentait à une de ces guermantes-là, elle vous faisait un grand salut dans lequel elle approchait de vous, à peu près selon un angle de 45 degrés, la tête et le buste, le bas du corps, qu'elle avait fort haut jusqu'à la ceinture qui faisait pivot, restant immobile. Mais à peine avait-elle projeté ainsi vers vous la partie supérieure de sa personne, qu'elle la rejetait en arrière de la verticale par un brusque retrait d'une longueur à peu près égale. Le renversement consécutif neutralisait ce qui vous avait paru être concédé. Le terrain que vous aviez cru gagner ne restait même pas acquis comme en matière de duel, les positions primitives étaient gardées. Cette même annulation de l'amabilité par la reprise des distances, qui était d'origine courvoisier et destinée à montrer que les avances faites dans le premier mouvement n'étaient qu'une feinte d'un instant, se manifestait aussi clairement chez les courvoisiers comme chez les guermantes, dans les lettres qu'on recevait d'elles, au moins pendant les premiers temps de leur connaissance. Le corps de la lettre pouvait contenir des phrases qu'on écrirait, semble-t-il, qu'à un ami. Mais c'est en vain que vous eussiez cru pouvoir vous vanter d'être celui de la dame, car la lettre commençait par « Monsieur » et finissait par « Croyez, monsieur, à mes sentiments distingués ». Dès lors, entre ce froid début et cette fin glaciale qui changeait le sens de tout le reste, pouvait se succéder, si c'était une réponse à une lettre de condoléance de vous, les plus touchantes peintures du chagrin que la guermante avait eu à perdre sa sœur, de l'intimité qui existait entre elles, des beautés du pays où elle villégiaturait, des consolations qu'elle trouvait dans le charme de ses petits-enfants. Tout cela n'était plus qu'une lettre, comme on en retrouve dans des recueils, et dont le caractère intime n'entraînait pourtant pas plus d'intimité entre vous et l'épistolière que si celle-ci avait été Pline le Jeune ou Madame de Simiane. Il est vrai que certaines guermantes vous écrivaient dès les premières fois « Mon cher ami, mon ami ». Ce n'étaient pas toujours les plus simples d'entre elles, mais plutôt celles qui, ne vivant qu'au milieu des rois, et d'autre part étant légères, prenaient dans leur orgueil la certitude que tout ce qui venait d'elles faisait plaisir, et dans leur corruption, l'habitude de ne marchander aucune des satisfactions qu'elles pouvaient offrir. Du reste, comme il suffisait qu'on eût eu une trisaïeule commune sous Louis XIII pour qu'un jeune Guermante dît en parlant de la marquise de Guermante « la tante à dents », les Guermantes étaient si nombreux que, même pour ces simples rites, celui du salut de présentation par exemple, il existait bien des variétés. Chaque sous-groupe, un peu raffiné, avait le sien, qu'on se transmettait des parents aux enfants, comme une recette de vulnéraire et une manière particulière de préparer les confitures. C'est ainsi qu'on a vu la poignée de main de Saint-Loup se déclencher comme malgré lui au moment où il entendait votre nom, sans participation de regard, sans adjonction de salut. Tout malheureux roturier qui, pour une raison spéciale, ce qui arrivait du reste assez rarement, était présenté à quelqu'un du sous-groupe Saint-Loup, se creusait la tête devant ce minimum si brusque de bonjour, revêtant volontairement les apparences de l'inconscience pour savoir ce que le ou la Guermante pouvait avoir contre lui. Et il était bien étonné d'apprendre qu'il ou elle avait jugé à propos d'écrire tout spécialement au présentateur pour lui dire combien vous lui aviez plu et qu'il ou elle espérait bien vous revoir. Aussi particularisé que le geste mécanique de Saint-Loup étaient les entrechats compliqués et rapides, jugés ridicules par M. de Charlus, du marquis de Fierbois, les pas graves et mesurés du prince de Guermantes. Mais il est impossible de décrire ici la richesse de cette chorégraphie des Guermantes à cause de l'étendue même du corps de ballet. Pour en revenir à l'antipathie qui animait les courvoisiers contre la duchesse de Guermantes, les premiers auraient pu avoir la consolation de la plaindre tant qu'elle fut jeune fille, car elle était alors peu fortunée. Malheureusement, de tout temps une sorte d'émanation fuligineuse et sui generis enfouissait, dérobait aux yeux la richesse des courvoisiers, qui, si grande qu'elle fût, demeurait obscure. Une courvoisier fort riche avait beau épouser un gros parti, il arrivait toujours que le jeune ménage n'avait pas de domicile personnel à Paris. Il descendait chez ses beaux-parents, et pour le reste de l'année, vivait en province, au milieu d'une société sans mélange mais sans éclat. Pendant que Saint-Loup, qui n'avait guère plus que des dettes, éblouissait d'oncières par ses attelages, un courvoisier, fort riche, n'y prenait jamais que le tram. Inversement, et d'ailleurs bien des années auparavant, Mademoiselle de Guermantes, Oriane, qui n'avait pas grand-chose, faisait plus parler de ses toilettes que toutes les courvoisiers réunis dès l'heure. Le scandale même de ses propos faisait une espèce de réclame à sa manière de s'habiller et de se coiffer. Elle avait osé dire au grand-duc de Russie « Eh bien, monseigneur, il paraît que vous voulez faire assassiner Tolstoï ?» Dans un dîner auquel on n'avait point convié les courvoisiers, d'ailleurs peu renseignés sur Tolstoï. Ils ne l'étaient pas beaucoup plus sur les auteurs grecs, si l'on en juge par la duchesse de Galardon d'Ouairière, belle-mère de la princesse de Galardon, alors encore jeune fille, qui, n'ayant pas été en 5 ans honorée d'une seule visite d'Oriane, répondit à quelqu'un qui lui demandait la raison de son absence. « Il paraît qu'elle récite de l'Aristote. » Elle voulait dire de l'Aristophane. « Dans le monde, je ne tolère pas ça chez moi. » On peut imaginer combien cette sortie de Mademoiselle de Guermantes sur Tolstoï, si elle indignait les courvoisiers, émerveillait les Guermantes. Et par-delà, tout ce qui leur tenait non seulement de près, mais de loin. La comtesse douairière d'Argencourt, née Seineport, qui recevait un peu tout le monde parce qu'elle était bas bleue, et quoique son fils fût un terrible snob, racontait le mot devant des gens de lettres en disant « Oriane de Guermantes, qui est fine comme l'ambre, maligne comme un singe, douée pour tout, qui fait des aquarelles dignes d'un grand peintre et des vers comme en font peu de grands poètes. Et vous savez, comme famille, c'est tout ce qu'il y a de plus haut. Sa grand-mère était mademoiselle de Montpensier. Et elle est la 18e Oriane de Guermantes, sans une mésalliance. C'est le sang le plus pur, le plus vieux de France. Aussi, les faux hommes de lettres, ces demi-intellectuels que recevait Madame d'Argencourt, se représentant Oriane de Guermantes, qu'il n'aurait jamais l'occasion de connaître personnellement, comme quelque chose de plus merveilleux et de plus extraordinaire que la princesse Badroul-Boudour. Non seulement se sentaient prêts à mourir pour elle en apprenant qu'une personne si noble glorifiait par-dessus tout Tolstoï, mais sentaient aussi que reprenait dans leur esprit une nouvelle force leur propre amour de Tolstoï, leur désir de résistance au tsarisme. Ces idées libérales avaient pu s'anémier entre eux. Ils avaient pu douter de leur prestige, n'osant plus les confesser. Quand soudain, de Mademoiselle de Guermantes elle-même, c'est-à-dire d'une jeune fille si indiscutablement précieuse et autorisée, portant les cheveux à plat sur le front, ce que jamais une courvoisier n'eût consenti à faire, leur venait un tel secours. Un certain nombre de réalités, bonnes ou mauvaises, gagnent ainsi beaucoup à recevoir l'adhésion de personnes qui ont autorité sur nous. Par exemple, chez les courvoisiers, les rites de l'amabilité dans la rue se composaient d'un certain salut, fort laid et peu aimable en lui-même, mais dont on savait que c'était la manière distinguée de dire bonjour, de sorte que tout le monde, effaçant de soi le sourire, le bon accueil, s'efforçait d'imiter cette froide gymnastique. Mais les Guermantes en général, et particulièrement Oriane, tout en connaissant mieux que personne ces rites, n'hésitez pas, si elle vous apercevait d'une voiture, à vous faire un gentil bonjour de la main. Et dans un salon, laissant les courvoisiers faire leurs saluts empruntés et raides, esquissait de charmantes révérences, vous tendait la main comme à un camarade en souriant de leurs yeux bleus. De sorte que, tout d'un coup, grâce aux Guermantes, entrait dans la substance du chic, jusque-là un peu creuse et sèche, tout ce que naturellement on eût aimé et qu'on s'était efforcé de proscrire. La bienvenue, l'épanchement d'une amabilité vraie, la spontanéité. C'est de la même manière, mais par une réhabilitation cette fois peu justifiée, que les personnes qui portent le plus en elles le goût instinctif de la mauvaise musique et des mélodies, si banales soient-elles, qui ont quelque chose de caressant et de facile, arrivent, grâce à la culture symphonique, à mortifier en elles ce goût. Mais une fois arrivées à ce point, quand, émerveillées avec raison par l'éblouissant coloris orchestral de Richard Strauss, elle voit ce musicien accueillir avec une indulgence digne d'Aubert les motifs plus vulgaires, ce que ces personnes aimaient, trouvent soudain dans une autorité si haute une justification qui les ravit. Et elles s'enchantent sans scrupule et avec une double gratitude en écoutant Salomé de ce qui leur était interdit d'aimer dans les diamants de la couronne. Authentique ou non, l'apostrophe de Mademoiselle de Guermantes au grand-duc, colportée de maison en maison, était une occasion de raconter avec quelle élégance excessive Oriane était arrangée à ce dîner. Mais si le luxe, ce qui précisément le rendait inaccessible aux courvoisiers, ne naît pas de la richesse, mais de la prodigalité, encore la seconde dure-t-elle plus longtemps si elle est enfin soutenue par la première, laquelle lui permet alors de jeter tous ses feux. Or, étant donné les principes affichés ouvertement, non seulement par Oriane, mais par Madame de Villeparisis, à savoir que la noblesse ne compte pas, qu'il est ridicule de se préoccuper du rang, que la fortune ne fait pas le bonheur, que seule l'intelligence, le cœur, le talent ont de l'importance, les courvoisiers pouvaient espérer qu'en vertu de cette éducation qu'elle avait reçue de la marquise, Oriane épouserait quelqu'un qui ne serait pas du monde. Un artiste, un repris de justice, un va-nu-pied, un libre penseur. Qu'elle entrerait définitivement dans la catégorie de ce que les courvoisiers appelaient les dévoyés. Il pouvait d'autant plus l'espérer que Madame de Villeparisis, traversant en ce moment, au point de vue social, une crise difficile, aucune des rares personnes brillantes que je rencontrais chez elle ne lui était encore revenue. Elle affichait une horreur profonde à l'égard de la société qui la tenait à l'égard. Même quand elle parlait de son neveu, le prince de Guermantes, qu'elle voyait, elle n'avait pas assez de raillerie pour lui, parce qu'il était féru de sa naissance. Mais au moment même où il s'était agi de trouver un mari à Oriane, ce n'étaient plus les principes affichés par la tante et la nièce qui avaient mené l'affaire. Ça avait été le mystérieux génie de la famille. Aussi infailliblement que si Madame de Villeparisis et Oriane n'eussent jamais parlé que titre de rente et généalogie, au lieu de mérite littéraire et de qualité du cœur, et comme si la marquise, pour quelques jours, avait été, comme elle serait plus tard, morte et en bière dans l'église de Combray, où chaque membre de la famille n'était plus qu'un guermante, avec une privation d'individualité et de prénom qu'attestait sur les grandes tentures noires le seul G de pourpre, surmonté de la couronne ducale. C'était sur l'homme le plus riche et le mieux né, sur le plus grand parti du faubourg Saint-Germain, sur le fils aîné du duc de Guermantes, le prince des Laumes, que le génie de la famille avait porté le choix de l'intellectuel, de la frondeuse, de l'évangélique Madame de Villeparisis. Et pendant 2 heures, le jour du mariage, Madame de Villeparisis eut chez elle toutes les nobles personnes dont elle se moquait, dont elle se moqua même avec les quelques bourgeoises intimes qu'elle avait conviées, et auxquelles le prince des Laumes mit alors des cartes avant de couper le câble dès l'année suivante. Pour mettre le comble au malheur des courvoisiers, les maximes qui font de l'intelligence et du talent les seules supériorités sociales recommencèrent à se débiter chez la princesse des Laumes aussitôt après le mariage. Et à cet égard, soit dit en passant, le point de vue que défendait Saint-Loup quand il vivait avec Rachel, fréquentait les amis de Rachel, aurait voulu épouser Rachel, comportait, quelque horreur qu'il inspira dans la famille, moins de mensonges que celui des demoiselles Guermantes en général, prônant l'intelligence, n'admettant presque pas qu'on mît en doute l'égalité des hommes. Alors que tout cela aboutissait à point nommé au même résultat que si elles eussent professé des maximes contraires, c'est-à-dire à épouser un duc richissime. Saint-Loup agissait, au contraire, conformément à ses théories, ce qui faisait dire qu'il était dans une mauvaise voie. Certes, du point de vue moral, Rachel était en effet peu satisfaisante. Mais il n'est pas certain que si une personne ne valait pas mieux, mais eût été duchesse ou eût possédé beaucoup de millions, Madame de Marsante n'eût pas été favorable au mariage. Or, pour en revenir à Madame des Laumes, bientôt après duchesse de Guermantes par la mort de son beau-père, ce fut un surcroît de malheur infligé aux courvoisiers que les théories de la jeune princesse, en restant ainsi dans son langage, n'eussent dirigé en rien sa conduite. Car ainsi cette philosophie, si l'on peut ainsi dire, ne nuisit nullement à l'élégance aristocratique du salon Guermantes. Sans doute, toutes les personnes que Madame de Guermantes ne recevait pas se figuraient que c'était parce qu'elle n'était pas assez intelligente. Est-elle riche américaine qui n'avait jamais possédé d'autres livres qu'un petit exemplaire ancien et jamais ouvert des poésies de Parny, posé, parce qu'il était du temps, sur un meuble de son petit salon, montrer quel cas elle faisait des qualités de l'esprit par les regards dévorants qu'elle attachait sur la duchesse de Guermantes quand celle-ci entrait à l'opéra. Sans doute aussi, Madame de Guermantes était sincère quand elle élisait une personne à cause de son intelligence. quand elle disait d'une femme « Il paraît qu'elle est charmante » ou d'un homme qu'il était tout ce qu'il y a de plus intelligent. Elle ne croyait pas avoir d'autre raison de consentir à les recevoir que ce charme ou cette intelligence, le génie des Guermantes n'intervenant pas à cette dernière minute. Plus profond, situé à l'entrée obscure de la région où les Guermantes jugeaient, ce génie vigilant empêchait les Guermantes de trouver l'homme intelligent ou de trouver la femme charmante s'il n'avait pas de valeur mondaine, actuelle ou future. L'homme était déclaré savant, mais comme un dictionnaire, ou au contraire commun avec un esprit de commis voyageur. La femme, jolie, avait un genre terrible ou parlait trop. Quant aux gens qui n'avaient pas de situation, quelle horreur, c'était des snobs. Monsieur de Bréauté, dont le château était tout voisin de Guermantes, ne fréquentait que des altesses, mais il se moquait d'elles et ne rêvait que vivre dans les musées. Aussi, madame de Guermantes était-elle indignée quand on traitait monsieur de Bréauté de snob. « Snob, babal, mais vous êtes fou, mon pauvre ami, c'est tout le contraire, il déteste les gens brillants. On ne peut pas lui faire faire une connaissance, même chez moi. Si je l'invite avec quelqu'un de nouveau, il ne vient qu'en gémissant. » Ce n'est pas que, même en pratique, les Guermantes ne fissent pas de l'intelligence un tout autre cas que les courvoisiers. D'une façon positive, cette différence entre les Guermantes et les courvoisiers donnait déjà d'assez beaux fruits. Ainsi, la duchesse de Guermantes, du reste enveloppée d'un mystère devant lequel rêvaient de loin tant de poètes, avait donné cette fête dont nous avons déjà parlé, où le roi d'Angleterre s'était plu mieux que nulle part ailleurs, car elle avait eu l'idée, qui ne serait jamais venue à l'esprit, et la hardiesse qui eût fait reculer le courage de tous les courvoisiers, d'inviter, en dehors des personnalités que nous avons citées, le musicien Gaston Lemaire et l'auteur dramatique Grand Mougin. Mais c'est surtout au point de vue négatif que l'intellectualité se faisait sentir. Si le coefficient nécessaire d'intelligence et de charme allait en s'abaissant au fur et à mesure que s'élevait le rang de la personne qui désirait être invitée chez la princesse de Guermantes, jusqu'à approcher de zéro quand il s'agissait des principales têtes couronnées, en revanche, plus on descendait au-dessous de ce niveau royal, plus le coefficient s'élevait. Par exemple, chez la princesse de Parme, il y avait une quantité de personnes que l'altesse recevait parce qu'elle les avait connues enfants, ou parce qu'elles étaient alliées à telle duchesse ou attachées à la personne de tel souverain. Ces personnes, fussent-elles laides, d'ailleurs, ennuyeuses ou sottes. Or, pour un courvoisier, la raison aimée de la princesse de Parme, sœur de mère avec la duchesse d'Arpajon, passant tous les ans 3 mois chez la reine d'Espagne, aurait suffi à leur faire inviter de tels gens. Mais madame de Guermantes, qui recevait poliment leur salut depuis 10 ans chez la princesse de Parme, ne leur avait jamais laissé passer son seuil, estimant qu'il en est d'un salon au sens social du mot comme au sens matériel, où il suffit de meubles qu'on ne trouve pas jolis, mais qu'on laisse comme remplissage et preuve de richesse, pour le rendre affreux. Un tel salon ressemble à un ouvrage où on ne sait pas s'abstenir des phrases qui démontrent du savoir, du brillant, de la facilité. Comme un livre, comme une maison, la qualité d'un « salon », pensait avec raison madame de Guermantes, a pour pierre angulaire le sacrifice. Beaucoup des amis de la princesse de Parme et avec qui la duchesse de Guermantes se contentait depuis des années du même bonjour convenable ou de leur rendre des cartes sans jamais les inviter ni aller à leur fête, s'en plaignaient discrètement à l'altesse, laquelle, les jours où monsieur de Guermantes venait seul la voir, lui en touchait un mot. Mais le rusé seigneur, mauvais mari pour la duchesse en tant qu'il avait des maîtresses, mais compère à toute épreuve en ce qui touchait le bon fonctionnement de son salon, et l'esprit d'Oriane, qui en était l'attrait principal, répondait « Mais est-ce que ma femme la connaît ?»« Ah, oh, alors, en effet, elle aurait dû. Mais je vais dire la vérité à madame. Oriane, au fond, n'aime pas la conversation des femmes. Elle est entourée d'une cour d'esprit supérieure. Moi, je ne suis pas son mari, je ne suis que son premier valet de chambre. Sauf un tout petit nombre qui sont, elles, très spirituelles. Les femmes l'ennuient. Voyons, madame, votre Altesse, qui a tant de finesse, ne me dira pas que la marquise de Souvray est de l'esprit. Oui, je comprends bien, la princesse la reçoit par bonté. Et puis elle la connaît. Vous dites qu'Oriane l'a vue, c'est possible, mais très peu, je vous assure. Et puis je vais dire à la princesse, il y a aussi un peu de ma faute. Ma femme est très fatiguée, et elle aime tant être aimable que, si je la laissais faire, ce serait des visites à n'en plus finir. Pas plus tard qu'hier soir, elle avait de la température. Elle avait peur de faire de la peine à la duchesse de Bourbon en n'allant pas chez elle. J'ai dû montrer les dents, j'ai défendu qu'on attelât. Tenez, savez-vous, madame, j'ai bien envie de ne pas même dire à Oriane que vous m'avez parlé de madame de Souvray. Oriane aime tant votre Altesse qu'elle ira aussitôt inviter madame de Souvray. Ce sera une visite de plus. Cela nous forcera à entrer en relation avec la sœur dont je connais très bien le mari. Je crois que je ne dirai rien du tout à Oriane, si la princesse m'y autorise. Nous lui éviterons comme cela beaucoup de fatigue et d'agitation. Et je vous assure que cela ne privera pas madame de Souvray. Elle va partout, dans les endroits les plus brillants. Nous, nous ne recevons même pas de petits dîners de rien. Madame de Souvray s'ennuierait à périr. » La princesse de Parme, naïvement persuadée que le duc de Guermantes ne transmettrait pas sa demande à la duchesse, et désolée de n'avoir pu obtenir l'invitation que désirait madame de Souvray, était d'autant plus flattée d'être une des habituées d'un salon si peu accessible. Sans doute, cette satisfaction n'allait pas sans ennui. Ainsi, chaque fois que la princesse de Parme invitait madame de Guermantes, elle avait à se mettre l'esprit à la torture pour n'avoir personne qui pût déplaire à la duchesse et l'empêcher de revenir. Les jours habituels, après le dîner, où elle avait toujours de très bonne heure, ayant gardé les habitudes anciennes, quelques convives, le salon de la princesse de Parme était ouvert aux habitués, et d'une façon générale, à toute la grande aristocratie française et étrangère. La réception consistait en ceci, qu'au sortir de la salle à manger, la princesse s'asseyait sur un canapé devant une grande table ronde, causait avec deux des femmes les plus importantes qui avaient dîné, ou bien jetait les yeux sur un magazine, jouait aux cartes, ou feignait d'y jouer, suivant une habitude de cour allemande, soit en faisant une patience, soit en prenant pour partenaire, vrai ou supposé, un personnage marquant. Vers 9 heures, la porte du grand salon, ne cessant plus de s'ouvrir à deux battants, de se refermer, de se rouvrir de nouveau, pour laisser passage aux visiteurs qui avaient dîné 4 à 4, ou s'ils dînaient en ville, escamotaient le café en disant qu'ils allaient revenir, comptant, en effet, entrer par une porte et sortir par l'autre, pour se plier aux heures de la princesse. Celle-ci, cependant, attentive à son jeu ou à la causerie, faisait semblant de ne pas voir les arrivantes, et ce n'est qu'au moment où elles étaient à 2 pas d'elle qu'elles se levaient gracieusement en souriant avec bonté pour les femmes. Celle-ci, cependant, faisait devant l'Altesse, debout, une révérence qui allait jusqu'à la génuflexion, de manière à mettre leurs lèvres à la hauteur de la belle main qui pendait très bas et à la baiser. Mais à ce moment, la princesse, de même que si elle eût chaque fois été surprise par un protocole qu'elle connaissait pourtant très bien, relevait la genouillée, comme de vive force, avec une grâce et une douceur sans égale, et l'embrassait sur les joues. Grâce et douceur qui avaient pour condition, dira-t-on, l'humilité avec laquelle l'arrivante pliait le genou. Sans doute. Et il semble que dans une société égalitaire, la politesse disparaîtrait. Non, comme on croit, par le défaut de l'éducation, mais parce que, chez les uns, disparaîtrait la déférence due au prestige qui doit être imaginaire pour être efficace. Et surtout, chez les autres, l'amabilité qu'on prodigue et qu'on affine quand on sent qu'elle a, pour celui qui la reçoit, un prix infini, lequel, dans un monde fondé sur l'égalité, tomberait subitement à rien, comme tout ce qui n'avait qu'une valeur fiduciaire. Mais cette disparition de la politesse dans une société nouvelle n'est pas certaine, et nous sommes quelquefois trop disposés à croire que les conditions actuelles d'un état de choses en sont les seules possibles. De très bons esprits ont cru qu'une république ne pourrait avoir de diplomatie et d'alliance, et que la classe paysanne ne supporterait pas la séparation de l'Église et de l'État. Après tout, la politesse dans une société égalitaire ne serait pas un miracle plus grand que le succès des chemins de fer et l'utilisation militaire de l'aéroplane. Puis, si même la politesse disparaissait, rien ne prouve que ce serait un malheur. Enfin, une société ne serait-elle pas secrètement hiérarchisée au fur et à mesure qu'elle serait en fait plus démocratique? C'est fort possible. Le pouvoir politique des papes a beaucoup grandi depuis qu'ils n'ont plus ni État ni armée. Les cathédrales exerçaient un prestige bien moins grand sur un dévot du XVIIe siècle que sur un athée du XXe. Et si la princesse de Parme avait été souveraine d'un État, sans doute eussais-je eu l'idée d'en parler à peu près autant que d'un président de la République. C'est-à-dire pas du tout. Une fois l'impétrante relevée et embrassée par la princesse, celle-ci se rasseyait, se remettait à sa patience, non sans avoir, si la nouvelle venue était d'importance, causé un moment avec elle, en la faisant asseoir sur un fauteuil. Quand le salon devenait trop plein, la dame d'honneur chargée du service d'ordre donnait de l'espace en guidant les habitués dans un immense hall sur lequel donnait le salon, et qui était rempli de portraits, de curiosités relatives à la maison de Bourbon. Les convives habituels de la princesse jouaient alors volontiers le rôle de cicérone et disaient des choses intéressantes, que n'avaient pas la patience d'écouter les jeunes gens, plus attentifs à regarder les altesses vivantes, et au besoin à se faire présenter à elles par la dame d'honneur et les filles d'honneur, qu'à considérer les reliques des souveraines mortes. Trop occupés des connaissances qu'ils pourraient faire et des invitations qu'ils pêcheraient peut-être, ils ne savaient absolument rien, même après des années, de ce qu'il y avait dans ce précieux musée des archives de la monarchie, et se rappelaient seulement confusément qu'il était orné de cactus et de palmiers géants, qui faisaient ressembler ce centre des élégances au palmarium du jardin d'acclimatation.